Merci d'être avec nous à Québec, Montréal, Outaouais, à Mauricie, au Saguenay, en Estrie. Alors, les nouvelles sont pas parties, fait que c'est Louis qui, du coup, s'est rassis super rapidement sur son siège. On a fait une petite entrevue ensemble, puis moi, je commence un peu ses chapeaux de roue aussi. Alors, mais il y aura d'autres nouvelles plus tard. J'ai deux sujets aujourd'hui. Tout à l'heure, on va parler de fentanyl. La crise est majeure. Êtes-vous inquiet? Et aujourd'hui, évidemment, on va aborder le sujet, comme j'avais commencé à discuter avec Louis, sur, par exemple, le nouveau campement de sans-abri sur la rue Notre-Dame. Il y en a d'autres, hein? Comment est-ce qu'on prévoit s'occuper d'eux? Alors, si vous voulez me parler, j'aimerais beaucoup qu'on discute ensemble, tout le monde. Vous avez juste, pardon, à m'appeler au 514-790-9850. Si vous êtes en dehors de la ville, hey, il y a de l'itinérance en dehors de la ville aussi, je connais ça, parce qu'en tournée, je m'en fais parler beaucoup, beaucoup. C'est pas la même forme, mais comment est-ce qu'on prévoit s'occuper d'eux? Des différents endroits en dehors de la ville, c'est important. C'est très important. Vous allez voir, ça change beaucoup. On va aller à Québec, on va aller... Mais il y a plusieurs endroits où, évidemment, c'est plusieurs différentes sortes d'interventions. Au 1-866-790-9850, vous pouvez m'écrire par courriel au dan@985fm.ca. Et on va tout de suite parler avec Jean-François Marie, qui est directeur de Cactus Montréal. Bonjour, M. Marie.
Bonjour, Dan.
Bonjour. On vous fait intervenir vite, là, quand les nouvelles décollent pas ici. Tout le monde est nerveux. Détrompez-moi, mais il me semble... Bon, évidemment, itinérance, on parle de désespoir, c'est clair. Mais là, on dirait qu'il y a une nouvelle sorte d'itinérants qui se rajoute, c'est-à-dire des gens qui ont perdu leur job, des gens qui peut-être se seraient pas ramassés dans la rue... en d'autres circonstances, des gens qui n'ont pas réussi à trouver de logement, ça s'ajoute aux itinérants déjà là, puis ils doivent se mélanger.
Oui, ben, c'est-à-dire qu'actuellement, au niveau de l'itinérance, en tout cas de l'absence et du manque de logement, là, si on s'attache là-dessus, c'est sûr qu'on est dans un contexte très particulier actuellement, puisqu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, on a beaucoup de gens qui sont en situation d'itinérance, qui d'habitude étaient soit dans des ressources, des refuges, etc. Et avec la fermeture de la plupart des centres d'hébergement d'urgence, ben, ces gens-là sont retournés à la rue.
Et oui, il faut dire que les grands centres, excusez-moi, je juste le spécifier, les grands centres n'accueillent que la moitié de la clientèle à cause de la distanciation pour ne pas avoir d'infection dans le milieu de l'itinérance. À date, on s'en est bien tiré, mais on est obligé, même au refuge, on reçoit la moitié des jeunes qu'on peut recevoir, juste que tout le monde le
sache.
C'est ça,
exactement. Et donc, ces gens-là, ils viennent grossir le nombre des personnes en situation d'itinérance sans refuge. Dans les gens qui restent en refuge, on compte aussi une grande proportion de gens qui consomment des drogues et donc qui ne cadrent pas dans les règles de fonctionnement de ces grands refuges-là. Mmh. On retrouve aussi des gens qui, pour différentes raisons, hein, refusent d'être dans des dortoirs, en collectivité, parce que ça correspond pas à ce qu'ils cherchent. Mmh. Et donc, ces gens-là sont sans refuge. Au travers de ça, il y a aussi une grande masse de gens qui, dans le contexte du Covid, ont perdu toutes sortes de revenus. Donc, il y avait des revenus d'appoint, de survie, qu'on pourrait dire, donc du travail non déclaré, du travail du sexe aussi, et qui, pour eux, ben, la perte de ces revenus...
Oui, pas juste ça, il y en a qui ramassaient des canis, il y en a qui collectaient tout ça.
Mais toutes sortes de choses.
Mais ils peuvent plus payer avec, dans les magasins, les magasins n'acceptent plus d'argent cash.
Oui, c'est ça. Puis il y en avait qui rendaient des coups de main à des commerçants locaux qui ramassaient 2-3 sous comme ça et qui ça leur permettait de passer au travers de chaque journée, quoi. Mmh. Et certains qui arrivaient à se maintenir en logement avec ces revenus d'appoint-là et actuellement, ben, ils n'ont plus ces revenus-là. Donc eux sont plus capables de payer le loyer qu'ils avaient déjà. En plus de ça, on est dans une situation au niveau du logement. On est en crise du logement majeure. C'est-à-dire que c'est à la rigueur, c'est pire que la dernière crise du logement du début des années 2000. Puisque non seulement il y a une manque de disponibilité de logement, mais il y a un manque d'abordabilité des logements en location. Il faut savoir que quelqu'un sur l'aide sociale, il gagne en dessous de $700 par mois. Avec moins de $700 par mois, maintenant, on n'est même plus capable de louer une chambre dans la majorité des cas. Donc même le moins cher des types d'habitations disponibles pour des personnes seules, la maison de chambre, ils ne sont même plus capables de le payer avec leur chèque d'aide sociale.
Je trouve que Montréal commence à aller rejoindre tranquillement certaines grandes villes comme New York et Paris, où tout est tellement cher qu'on trouve littéralement des familles en entier qui vivent, admettons, sous les ponts, qui vont travailler, ils ont des jobs, ils reviennent dormir sous les ponts avec leur famille. C'est rendu grave, là.
Oui, c'est très très grave. Et dans ce contexte-là, ben, effectivement, ces gens-là, toute cette masse de monde-là, ben, faut qu'ils restent quelque part. Il faut qu'ils établissent au moins une sécurité pour eux parce qu'ils sont en mode survie. Et le meilleur moyen pour eux d'assurer leur sécurité en étant sans refuge, sans hébergement dans la rue, ben, c'est d'une part de se regrouper entre eux, entre amis, par groupe affinitaire pour les uns les autres se soutenir dans leurs difficultés, mais aussi assurer leur sécurité au quotidien en se tenant ensemble, répondre à leurs besoins collectivement parce que c'est plus facile que tout seul, et être en mesure de garder le peu de choses qu'ils ont. Parce qu'ensemble, une personne peut garder des affaires pendant que les autres vont vaquer à leurs occupations et ainsi de suite. Et donc ça leur amène une sécurité aussi, cette possibilité-là. Parce que quand on a des gens isolés qui dorment dans des devantures de porte, il peut leur arriver à peu près n'importe quoi dans
Oui, et ça leur
la
arrive d'ailleurs.
rue.
J'avais un voisin bijoutier qui, lui, adorait ça, qu'il y ait un sans-abri qui dormait dans sa porte. Il disait, avant qu'un voleur rentre chez nous, il faut qu'il passe par-dessus, ça fait un témoin potentiel. Fait que généralement, ils changent d'idée. Lui, adorait ça. Mais bon, c'est pas la majorité, on se comprend. Est-ce que je me trompe ou, à un moment donné, notre maire, Denis Coderre, que je vais le critiquer un peu ici. Il a fait des bonnes choses aussi. Je veux pas lui lancer la pierre, mais il a vraiment poussé fort pour qu'il y ait un recensement des sans-abri à Montréal. Et évidemment, la façon dont ça a été procédé, on l'a tous très fortement critiqué. Ça ne faisait pas le tour. Ça laissait, par exemple, il y a l'itinérance des femmes est beaucoup plus cachée. On ne les voit pas. Il y a beaucoup d'itinérants qu'on ne voit pas. Fait que là, on l'avertit. Ton recensement, c'est correct, Denis, mais à un moment donné, c'est pas ça la vraie image. Puis lui, il est parti avec, bon, là, on a des bases solides pour travailler. On n'a pas de bases solides pour travailler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si, par exemple, on voit pas les femmes, on les recense pas, mais les organismes qui s'occupent des femmes recevront à peu près pas de financement.
Exactement.
C'est de cause à effet, directement, ça. Et il faut se préparer aussi pour cette nouvelle sorte d'itinérance de gens qui travaillent, de gens qui sont en famille et qui pourraient s'organiser en temps normal s'il n'y avait pas une crise du prix du logement comme ça. Et évidemment, il y a plusieurs qui perdent leur job à cause de la COVID. Donc, le petit campement là qu'on voit sur Notre-Dame, où là, il y a les nouveaux sans-abri qui sont avec les autres, d'ailleurs qui s'entendent très bien. Pour l'instant, ça a l'air très bien aller.
Oui, ça va.
La Croix-Rouge donne des lunchs. Bon, ça se passe bien pour l'instant, mais là, faut pas croire que ça va partir. La crise s'accentue, et la crise du logement, et la crise de la COVID, donc perte de job pour d'autres mondes, ça fabrique du désespoir. Et là, on va parler de santé mentale, parce que...
Mais par contre, Dan, je veux rajouter
Oui,
quelque chose.
vas-y, vas-y,
On a une
vas-y.
particularité par rapport aux autres grandes villes nord-américaines qu'on ne retrouve pas, c'est l'hiver.
Oui, ben c'est là où j'allais, ça va être bois moins
Et
30,
on ne
ça.
peut pas se comparer au campement en Colombie-Britannique ou même en Ontario, hein, même Toronto, l'hiver, c'est pas le même. C'est pas le même niveau de froid, en tout cas les mêmes durées de froid intense. D'ailleurs, c'est souvent sur la côte ouest qu'on va voir ces grands campements-là parce que le climat est beaucoup plus favorable. Qu'est-ce qui va advenir de ces gens-là rendus au mois d'octobre, de novembre et au mois de février?
Oui, et ça s'en vient très vite parce qu'il y a un paquet je sais qu'il y a un paquet de maisons de désintoxication pour jeunes. Il y a un paquet de au refuge. Il y a beaucoup de jeunes qui ont disparu. On se demande où est-ce qu'ils sont et dans quel état on va les retrouver à l'automne. Et c'est renforcé par le fait que, par exemple, des jeunes qui ont n'importe qui dans la rue qui aurait été en contact avec la COVID ont eu des abris temporaires. Je pense à l'aréna Maurice Richard, au centre Camillien-Houde, les hôtels. Moi, j'avais un peu tanné notre mère Plante sur Twitter avec ça. Quand est-ce qu'on réquisitionne des hôtels? Ben, elle m'a répondu. On a eu un. Je dis, OK, on veut les autres. Je suis fatiguant, moi. Fait que, elle est revenue. On a été chercher trois autres. Alors, je trouve qu'elle a fait sa job. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Mais tout ça, c'est tous des endroits qui vont reprendre leurs activités. Donc, ça va tout être une quantité immense de personnes qui vont être rejetées à la rue sans aucune ressource, là.
Oui, c'est ça. Puis Dan, vous savez, on a vu. En Colombie-Britannique, les tribunaux ont été obligés d'être saisis des évictions de ces campements-là parce que ça ne respectait pas les droits des campeurs, notamment en vertu de la charte. Ces campements-là, ces tentes, devraient être reconnus comme des endroits d'habitation. À partir du moment où on leur reconnaît le statut d'habitation, ce que c'est, hein, c'est de l'habitation. Une tente est une unité d'habitation. Et à partir de ce moment-là, quand on les évince, ils ont les mêmes droits que des occupants. Et donc, la ville a une responsabilité de ne pas rejeter ces gens-là dans la rue et de les exposer, donc de mettre en danger leur intégrité, leur santé et leur sécurité.
Leur vie. Et leur vie.
Exactement, c'est l'article 7 de la Charte canadienne. Un jugement de la Colombie-Britannique, le jugement Shands, il établit que ces campements-là sont des unités d'habitation et que si, pour différentes raisons, notamment des normes incendie, etc., la ville doit fermer ces campements-là, ils ont l'obligation de les replacer en logement. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on ferme ces campements-là en replaçant ces gens-là face à des risques impérieux qui peuvent mettre en danger leur vie. L'État a des responsabilités qu'on a inscrites dans notre Constitution, dans nos chartes, et ces droits-là doivent être respectés. Actuellement, au Québec, on n'a aucune jurisprudence en la matière. Il y a de la jurisprudence similaire qui existe en Colombie-Britannique et en Ontario. Et peut-être que l'émergence de ces campements-là, et ce serait dommage de passer par là et de ne pas avoir une municipalité qui est proactive, et donc d'aller de l'avant et d'appliquer la charte d'emblée, et qu'on soit obligé d'accompagner ces campeurs-là, de les amener devant les tribunaux pour que leurs droits soient respectés. Moi, je pense qu'on a une administration qui se dit progressiste et qui, donc, dans ce dossier-là, devrait agir de manière préventive et ne pas obliger le milieu communautaire à faire des accompagnements dans des cours de justice qui vont durer des mois et qui vont causer beaucoup de troubles à beaucoup de gens, et d'être proactif et de tolérer d'une part ces campements, et que si jamais il y a des enjeux de sécurité, de santé, d'incendie autour de ces campements-là, que
on les personnes... On ne va pas juste les disperser, puis oui, absolument.
Ça, c'est une question de droit, ce n'est pas une question de principe. C'est la Charte canadienne de droits et libertés, l'article 7. Et il y a déjà des cours ailleurs au pays qui ont jugé dans ce sens-là.
C'est très éclairant, M. Marie. Je vais vous laisser à votre job, Cactus. Je sais que vous travaillez fort. Vous recevez beaucoup de gens dans la même journée. Vous faites beaucoup de bien.
300 personnes environ par jour.
Ah ben oui, c'est pas le Club Med. Puis en plus, de la souffrance devant vos yeux tous les jours. Alors merci infiniment de nous avoir consacré votre temps. C'était Jean-François Marie, directeur de Cactus Montréal. Après la pause, on va parler avec l'abbé Claude Paradis, qui est le prêtre des itinérants.